Je vais vous présenter très rapidement cette étude ESCAPE, ou ESCAPE, qui est une étude du coût du traitement de l'arthrose après cure thermale. Comme vous le savez, il n'est pas facile d'étudier le thermalisme et d'étudier les impacts du thermalisme. Notre objectif était donc d'élaborer de tester une méthodologie déterminée à partir des consensus d'experts organisés par l'AFRED, d'ailleurs, que je remercie en passant pour sa contribution à cette étude, de même que le Conseil général des Landes et la région Aquitaine. Le problème principal du thermalisme, comme vous le savez, c'est que l'insu n'est pas facile à gérer sur le plan méthodologique, puisqu'en général, les gens savent quand ils sont en cure ou pas, sauf s'ils sont vraiment très atteints. Mais voilà, donc là, ce qui rend la randomisation, on vous randomise, s'il n'y a pas d'insu derrière, la randomisation est extrêmement complexe à gérer. Vous allez, je crois, en voir d'autres exemples tout à l'heure, ou d'autres propositions, ou d'autres solutions techniques, hein, méthodologiques. Mais ce type d'étude est extrêmement difficile à gérer. Il y a, donc on ne peut faire que des études ouvertes, avec un effet placebo ou nocebo majeur. Et donc, un des premiers objectifs, c'est d'essayer de trouver un critère d'évaluation objectif qui n'est pas modifié par l'impression ou par le vécu des patients. Et des recherches de méthodes de comparabilisation, de rendre comparables les populations qu'on étudie. Alors, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a fait deux études parallèles, simultanées et en insu l'une de l'autre. Nous avons demandé à des médecins généralistes d'inclure des patients arthrosique dans une étude du coût de l'arthrose, en leur disant, voilà, on étudie le coût de l'arthrose, on ne leur a pas parlé du tout de thermalisme, en quoi que ce soit. Et donc, ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas l'existence de la deuxième cohorte de patients curistes, pour ne pas influencer la consommation de soins sur le fait qu'ils étaient curistes, enfin, qu'ils savaient qu'ils seraient comparés à des curistes, ils ne savaient pas qu'ils étaient comparés. Donc là, l'aveugle n'est pas à l'échelon des individus, mais à l'échelon des investigateurs. Et donc, nous avons fait deux cohortes régionales, une de curistes, une de non-curistes, chacune ne connaissant pas l'existence de l'autre. Et nous avons recueilli exactement les mêmes informations dans les deux cohortes. D'ailleurs, s'il y avait eu des cohortes, des curistes parmi la cohorte de non-curistes, on les supprime simplement, mais sans leur dire qu'on les supprime. Et nous avons recueilli le coût direct pour l'assurance maladie en demandant, parce que malheureusement, on n'a pas encore l'accès direct aux bases de données d'assurance maladie, nous avons recueilli auprès des patients à 3 mois et 6 mois après la cure ou à la date équivalente chez les non-curistes, 3 mois et 6 mois après la consultation d'inclusion, l'ensemble de leur consommation médicale et de l'ensemble de toutes les dépenses de santé afférentes à l'arthrose. C'était un travail de bénédictin d'identifier, de réussir à lire ce que racontaient les patients et de retraduire ça en termes sonnants et trébuchants et valoriser est quelque chose d'extrêmement difficile. Ensuite, nous avons développé des modèles statistiques de référence en étudiant l'impact de tous les facteurs pouvant affecter l'arthrose sur les coûts. En disant, si l'arthrose est plus ancienne, ça va coûter plus cher. Si elle est plus grave, ça va coûter plus cher. Si c'est des pathologies associées, ça va coûter plus cher. S'ils habitent dans les Landes, ça coûte plus cher que dans... Ça coûte moins cher que dans... Je ne sais pas. Donc, on a établi un modèle de coût chez les non-curistes et on a appliqué ce modèle de coût chez les curistes pour voir si les curistes avaient été non-curistes, est-ce qu'ils auraient coûté la même chose que les non-curistes. C'est le premier modèle. Deuxième type de modèle, c'est de dire, si on identifie tout ce qui différencie le curiste du non-curiste, et qu'on crée ce qu'on appelle un score de propension, qui est la propension à être curiste ou pas curiste, on a un score et on ajuste les coûts, ça revient au même, mais ce sont deux méthodes statistiques différentes, on re-rend le curiste et le non-curiste, on les fait converger pour les re-rendre équivalents. C'est-à-dire qu'on rajeunit les uns, on vieillit les autres, on change de sexe, on fait des tas de choses comme ça, pour qu'à l'arrivée, ils soient virtuellement les mêmes. Et donc, voici nos deux cohortes. Elles sont tout à fait comparables pour ce qui concerne la distribution en sexe. Et vous voyez que les femmes sont plus souvent arthrosiques que les hommes. il y a plus de femmes arthrosiques traitées que d'hommes arthrosiques traités. Alors, peut-être qu'ils ne se traitent pas, hein, ça c'est un autre problème. L'âge moyen, 69-67 ans. Les curistes ici, Escape, c'est pour ça qu'on a deux noms, hein, c'est Escape généraliste et Escape curiste. Ce sont deux cohortes parallèles, c'est deux études parallèles, identiques, mais ce n'est pas la, tout à fait, mais ce n'est pas exact, ce n'est pas une seule étude, c'est deux études parallèles. 67 ans, 69 ans, donc ils sont un peu plus vieux, et ils sont un peu plus, les non-curistes sont un peu plus riches, en termes de niveau socio-professionnel. Le curiste est plus souvent ouvrier, ou, et le non-curiste, enfin, plutôt les classes aisées ne vont pas en cure. La localisation de l'arthrose est la même, gonarthrose, coxarthrose. Les curistes ont plus souvent deux ou plus localisations de l'arthrose. Je ne suis pas certain que ce soit une réalité ou une différence d'évaluation, puisque ceux-ci ont été évalués par des médecins thermaux qui ont l'habitude de suivre les arthroses et de comptabiliser le nombre d'articulations. Ceux-ci sont vus par des généralistes qui ont parfois du mal à identifier une hanche, un genou. Ce que je ne crois pas d'ailleurs, puisqu'on les retrouve ici de la même manière. Donc les gens qui ont plusieurs localisations d'arthrose ont plus souvent tendance à aller en cure que non. Non, non, mais toutes les hypothèses doivent être soulevées. Toutes les hypothèses. Non, initialement nous avions mis aussi l'arthrose fémoro-patellaire et l'arthrose du genou, deux localisations d'arthrose, et là il y avait une grosse différence entre les curistes et les non-curistes, et je soupçonne que quand on demande arthrose du genou ou arthrose fémoro-patellaire, la distinction ne soit pas toujours facile à faire. On dit arthrose du genou, de dire qu'il y a l'un ou l'autre, ce n'est pas toujours très facile à reconnaître. Donc on a supprimé. Ah, là nous avons des effets indésirables d'un transfert de Mac sur PC. Je suis désolé, le PC ne nous comprend pas les accents. C'est l'ancienneté de l'arthrose, et on voit que les curistes ont souvent des arthroses plus anciennes que les non-curistes, chose qui peuvent influencer sur les coûts. Sur les stades d'arthrose, vous avez les classifications de Kellgren et Lawrence, la gravité moyenne et les indices de Leuken, et on voit que les non-curistes ont des stades un peu plus avancés que les curistes. Ce n'est pas très très important, mais c'est significatif ici sur la différence de stade. Donc, pour résumer, les arthrosiques vus par des généralistes qui ne vont pas en cure ont plutôt tendance à avoir une arthrose plus récente et plus grave, plus de symptômes fonctionnels. Les curistes ont tendance à avoir plus souvent des localisations multiples, à avoir une arthrose plus ancienne, mais un peu moins grave. Alors, si on regarde les coûts ici, c'est la partie la plus importante. Avant la cure, on a pris les 6 mois rétrospectivement avant la cure et prospectivement les 6 mois après la cure. Ceci permet d'ajuster les coûts après sur les coûts avant. Les coûts avant la cure ne sont pas très différents entre les deux, puisqu'on a, si j'arrive à voir, mais il faut que je fasse régler mes lunettes, c'est l'âge qui avance, 726 € dans les 6 mois contre 721. Après la cure, on est à 500 et 517, on a 70 € de différence ici après. Et pareil, sur les coûts pour assurance maladie, 430-401, 415-385 avant, et des coûts qui sont assez différents ici après. Et ceci est significatif. Donc en première approximation, le curiste 6 mois après sa cure coûte moins cher à l'assurance maladie que le curiste 6 mois avant sa cure ou que le non-curiste 6 mois après sa non-cure. À la même époque. Non, non, je veux dire, 6 mois après sa consultation, entre là et là, ici, il y a eu une cure, et ici, il n'y a pas eu de cure. Mais c'est à la même époque de l'année, c'est ajusté sur la période de l'année, donc c'est sur la même région, donc il pleut à peu près autant, et on a les mêmes risques de consommation. On peut également regarder, en distinguant, je ne vais pas passer là-dessus, mais on peut regarder tous ceux qui ont eu au moins une consultation de rhumatologie, d'auxiliaire médical, on peut décortiquer pour savoir exactement d'où viennent les sources de coûts. Si on veut s'amuser là-dedans, je vous invite à venir voir et si vraiment ça vous amuse de savoir si quelqu'un a plus de consultations d'ostéopathe ou de kinésithérapeute, on a toutes ces données. Donc, Apparemment, les curistes coûtent un peu moins cher après la cure. Ils sont un peu plus jeunes, ils ont une pathologie un peu moins grave et une durée de maladie un peu plus longue. Donc on a ajusté sur le coût des curistes en appliquant les modèles de coût des non-curistes aux curistes. Et quand on applique ces modèles de coût, on voit que le coût donc sur les curistes, quand on regarde leur coût réel, 307 euros, 302 euros, selon qu'on prend la moyenne ou la médiane, quand on applique le modèle de coût des non-curistes aux curistes, on voit des coûts à 347 et 355, c'est-à-dire qu'ils auraient dû coûter 347, ils ne coûtent que 307. Donc, les différences de coûts sont moins importantes que si on les prend en brut, elles persistent, ce n'est pas significatif sur le plan statistique, pour des raisons de puissance. On n'a pas assez de sujets, on a eu du mal à recruter, mais c'est essentiellement un test de faisabilité. On a un coût qui est moins ici, moindre que celui qu'il aurait dû être s'ils avaient été non-curistes. Quand on regarde sur des analyses multivariées classiques, en fonction qu'on rentre dans le modèle l'ensemble des données, qu'on ajuste sur l'ensemble des données, on se retrouve de la même manière avec des coûts de 452 versus 375, donc on est encore en dessous, ici, quand on ajuste sur l'ensemble des facteurs. Et quand on regarde sur le score de propension, c'est-à-dire qu'on les passe dans une moulinette qui permet de les rendre tous les mêmes, et voilà la distribution du score de propension qui permet de bien distinguer les curistes des non-curistes, et on va ramener l'ensemble de ces scores au même niveau au milieu, et on ajuste sur ce score, on voit à nouveau que l'on a des coûts directs totaux, donc ajustés sur le score, 648, 499 ou 599, 517, donc on est encore entre 80, 50 et 80 euros. C'est pas énorme, c'est pas énorme, je vous l'avoue, et effectivement, c'est pas significatif quand on ajuste, donc on corrige les différences entre les uns et les autres, la différence est moins importante qu'elle n'apparaît initialement, ce qui veut dire que ces modèles marchent pour corriger, qu'on arrive à faire changer les choses, effectivement, mais qu'il reste une différence entre les curistes et les non-curistes. Et donc l'idée ici, c'est d'étendre l'étude et de la renouveler en prenant des populations plus grandes pour avoir plus de puissance et plus de finesse dans l'analyse. Messieurs les Présidents, merci.
Donc, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, donc je vais vous parler d'un essai clinique qui est fait en station thermale et qui utilise un principe actif qui est le dioxyde de carbone issu de l'eau chlorobicarbonatée sodique de la station thermale de Roya. Donc c'est un essai randomisé en double insu qui a permis d'étudier les effets cliniques et microcirculatoires, donc à court terme et à moyen terme, donc de l'application de 18 jours de carbothérapie donc, chez des patients atteints de claudication intermittente au stade 2 du stade de Le Richer-Fontaine. Pour être crédible statistiquement, le critère principal d'évaluation donc, était le périmètre total de marche. Et afin d'être démonstratif, donc au niveau statistique, avec un risque alpha de 5% et bêta de 20%, donc le nombre de patients nécessaires était de 60. Alors les critères d'inclusion, les critères d'inclusion étaient les suivants. Donc ces patients qui n'avaient jamais eu de carbothérapie préalable, âgés donc de 45 à 75 ans et ayant signé bien sûr le consentement écrit dû à l'essai clinique. Ils étaient atteints donc de claudication intermittente qui était stable depuis au moins 6 mois et le diagnostic était confirmé par une imagerie médicale. Nous avons aussi suivi dans ce cadre donc les recommandations qui était faite pour toute recherche de médicaments vasoactifs. Donc, ces recommandations étaient rapportées par Dormandie en 2000. L'état modéré de la claudication donc, se situe pour un patient qui marche entre 100 et 500 mètres. Et ce périmètre de marche ne doit pas varier avant l'essai clinique lors de deux épreuves sur tapis roulant réalisées à plus de 15 jours d'intervalle. Les critères de non-inclusion étaient les suivants. Donc au niveau vasculaire, bien sûr, la claudication devait être stable. elle ne devait pas être d'origine inflammatoire et les patients ne devaient pas être diabétiques. Donc les contre-indications à la CO2 thérapie, eh bien, c'est les contre-indications des pathologies aiguës, donc concernant à la fois le cœur, les artères coronaires, les artères des troncs supra-aortiques et toute thrombose veineuse profonde, donc de moins de 6 mois. Donc ces patients eh bien, devaient pouvoir marcher sur un tapis roulant, donc ne pas avoir de troubles moteurs qui contre-indiqueraient cette épreuve. Et ils devaient donc ne pas s'inscrire à des programmes de rééducation donc, tels qu'elles sont préconisées à l'heure actuelle, rééducation à la marche, donc pour les patients artériopathes. Et tout traitement à l'ilomédine précédente eh bien, était contre-indiqué. La technique de soins utilisée est celle qui est présentée sur cette diapositive. C'est une technique qui a été validée, mesurée donc, et publiée dans Angiologie en 1997. Donc il s'agit de l'application, de la modalité d'application du CO2 sous forme sèche, mais voilà, dans une enveloppe en plastique, donc sanglée ou en susternal, et le temps donc le temps d'exposition était de 30 minutes sur une peau préalablement humidifiée. Le placebo était de l'air, donc attribué à même température que le gaz. Alors, les critères de mesure, donc bien sûr le critère principal, distance totale de marche, et les critères secondaires, eh bien, première gêne d'apparition de la douleur lors de marche sur tapis roulant, et puis toutes les mesures de pression systolique de cheville et les mesures donc microcirculatoires par des techniques de laser Doppler et de la mesure de pression transcutanée en oxygène. Un questionnaire de qualité de vie spécifique de la claudication intermittente a été réalisé à 3 reprises avant, à 3 mois et 1 an après la thérapeutique. Ici, donc, c'est le déroulement de l'essai clinique, donc avec les 6 bilans réalisés au cours du temps. Donc la population étudiée, il faut savoir que nous avons vu au moins 500 personnes pour en retenir 65 qui rentraient dans la maille de cet essai, et 62 ont pu réaliser à bien cet essai, 57 hommes, 5 femmes, d'âge moyen 60 ans, l'ancienneté de la pathologie, donc 6 années, et 59 d'entre eux fumés, et une grosse hérédité cardiovasculaire familiale pour 80% d'entre eux. Donc après randomisation, donc, les deux groupes ont été réalisés, 30 personnes dans le groupe actif recevant la CO2 thérapie et dans le groupe placebo, donc 32 personnes. L'homogénéité donc, des deux groupes a été étudiée, calculée, et aucune caractéristique donc, n'a été différente en ce qui concerne donc, toutes les caractéristiques démographiques de la chirurgie donc, et les fumeurs. 12 personnes fumaient dans chaque groupe lors de cet essai. Et les différences donc, mesurées entre chaque tapis roulant eh bien, n'ont pas été significativement différentes. Le périmètre de marche que vous voyez ici eh bien, est de 200 pour en rouge, donc la distance totale de marche est autour de 200 mètres. Aucune modification significative au cours des deux tapis roulants et aucune différence significative donc en intergroupe. Il en est de même pour la distance initiale de marche, les index de pression qui sont près de 0,70 qui signent bien le stade 2 de la pathologie, une chute de celle-ci de 50% après épreuve de marche et un temps de récupération de cet index qui est donc autour de 12 minutes et aucune différence significative dans ces deux groupes. Comment évolue le périmètre de marche après la thérapeutique? Vous voyez en bleu foncé le groupe actif, c'est-à-dire traité par carbothérapie. Une augmentation significative de 66% est notée à l'arrêt du traitement. Et ceci se maintient à 3 mois et à 6 mois. Aucune différence significative n'est mesurée dans le groupe placebo. Et ceci avec un P qui est quand même de 1 pour 1000 pour chaque mesures statistiques. Les mêmes constatations sont effectuées en ce qui concerne les critères secondaires, donc la distance initiale de marche ici entre les deux groupes. Vous voyez ici donc les index de pression systolique donc, au repos sont semblables tout au long donc, de l'essai. Et après épreuve de marche, eh bien, on mesure une augmentation significative de ces index à chaque temps d'observation, donc après traitement, 3 mois après et 1 année après, avec une probabilité donc, qui est quand même de 1 pour 1000 à l'intérieur du groupe traité et de 4% en intergroupe. Et ceci est valable à 1 minute et à 10 minutes après l'épreuve de marche sur tapis roulant. Le temps de récupération de cet index de pression, donc là aussi, dans le groupe traité, donc en colonne bleu foncé, une diminution significative à l'issue du traitement qui se maintient au cours du temps avec un P qui est donc très significatif à la fois dans le groupe traité et en intergroupe. Alors, les valeurs, ces résultats concernaient la macrocirculation, les index de pression donc, mesurés au niveau de la cheville et par rapport à la pression humérale. Les bilans qui concernent la microcirculation, bien sûr, la mesure par voie transcutanée de l'oxygène au niveau des tissus, en distalité, donc au dos du pied, montre une augmentation très significative à l'intérieur du groupe et encore plus significative donc en intergroupe, à chaque temps de mesure et sur 1 année. Il en est de même pour la vasomotion. La vasomotion, donc, c'est mesuré par la méthode laser Doppler. C'est un caractère microcirculatoire intéressant et qui mesure donc le nombre de contractions autonomes de l'artériole et artériolo-capillaire, et qui montre ici une modification très intéressante, donc activée par ce CO2 incorporé lors de l'application des soins. Donc, et par contre, la mesure de la pression systolique au gros orteil, qui elle mesure donc une circulation cutanée qui est très variable, donc elle montre une augmentation très importante au niveau du groupe traité, mais on est à 0,6 donc, pour la statistique en intergroupe, ce qui ne ressort pas dans ce cas. Donc, est-ce que cette augmentation des périmètres de marche est bien liée à une augmentation des paramètres vasculaires? Des corrélations ont été effectuées qui mettent en évidence donc une relation positive entre cette augmentation du périmètre de marche qui est liée donc à l'augmentation des pressions systoliques de cheville et aussi aux effets induits qui sont une augmentation donc l'oxygénation mesurée au niveau tissulaire. Nous remercions particulièrement, donc cet essai est un essai monocentrique, n'a pas pu donc été commencé avant la création de la FRET, donc nous remercions les villes de Roya, de Chamalières et les différents conseils généraux et régionaux qui ont sponsorisé ce travail par le biais de l'Institut de recherche cardiovasculaire. Voilà, je vous remercie.
Bonjour, je remercie tout d'abord le professeur Rock de m'avoir invité à ces journées, dans le cadre de ces journées d'automne de Dax, afin de vous parler de l'étude sur la cure thermale à visée dermatologique à Uriage. Donc, je suis Sophie Chanteau, responsable de cosmétovigilance et en charge des études thermales pour les laboratoires dermatologiques d'Uriage. Je vais vous présenter un petit peu le contexte de cette enquête. En 2007, les laboratoires dermatologiques d'Uriage sont devenus propriétaires de la station thermale d'Uriage. Donc, afin d'obtenir des données sur les patients qui viennent en cure en dermatologie, nous avons mis en place une enquête observationnelle grâce à l'implication des 5 médecins de la station, donc 2 médecins généralistes, 2 médecins thermaux et un dermatologue. Donc, l'enquête a été réalisée sur la période de mars à octobre 2008 à Uriage-les-Bains et qui concernait les curistes en dermatologie. Les objectifs de cette enquête, c'était d'évaluer en premier les indications de la cure en dermatologie, les effets de ces cures et également d'évaluer l'impact sur la qualité de vie pendant la cure 6 mois et 6 mois après la fin de cure. Alors, qui sont les curistes qui viennent en dermatologie à Uriage? Donc, nous avons pu inclure dans l'enquête 644 patients sur les 824 qui viennent en dermatologie à Uriage. Donc, il s'agit plutôt d'une population féminine à 60%, avec une moyenne d'âge de 50 ans. Dans 41% des cas, il s'agit de personnes retraitées, mais 33% sont toujours en activité. 15% des patients viennent en double handicap, c'est-à-dire dermatologie plus rhumatologie ou dermatologie et voie respiratoire. Ils choisissent leur lieu de cure dans 73% des cas et sont adressés par leur médecin généraliste dans 66% des cas. Alors, pour 32% des sujets, il s'agissait de leur première cure en dermatologie à Uriage. Et 68% des patients étaient déjà venus pour une cure thermale à Uriage. Quels sont donc, nous allons donc essayer de répondre à la première, au premier objectif de cette enquête, c'est-à-dire quelles sont les indications de la cure. Donc, il s'agit du psoriasis pour 51,5% des patients, de l'eczéma pour 32,5% des patients, et pour 16% des autres indications. Alors, des indications classiques des cures thermales en dermatologie, comme le prurigo ou la rosacée, ou les cicatrices et les séquelles de brûlure. Et les autres indications, on va retrouver le lupus ou la porokératose actinique. Pourquoi vient-on en fait en cure en dermatologie? La première raison à 51%, c'est améliorer l'état clinique hors médicaments. Ensuite, pour 44%, c'est pallier à l'insuffisance du traitement médical. Dans 44% des cas, c'est aussi augmenter le bénéfice du traitement médical. Et pour 25% des cas, c'est changer d'environnement. Quelles sont les caractéristiques de cette dermatose? L'enquête a permis d'établir que l'ancienneté de la dermatose est en moyenne de 20 ans, que dans 48% des cas, il y a des antécédents familiaux et qu'elle évolue en continu dans 76% des cas. Dans les 12 derniers mois qui ont précédé la cure, la dermatose a été traitée par des médicaments dans 23% des cas, des soins dermocosmétiques dans 23% des cas également, une association médicaments plus soins dermocosmétiques dans 49% et 5% des patients n'ont reçu aucun traitement. Donc nous allons aborder maintenant le deuxième objectif de l'enquête qui sont les effets de la cure. Au début de la cure, donc, le médecin a jugé la sévérité de la dermatose comme légère à modérée dans 71% des cas, comme importante et très importante dans 29% des cas. Le médecin a ensuite prescrit pendant cette cure des médicaments dans 18% des cas, des soins dermocosmétiques dans 43% des cas, et une association dans 21% des cas. Aucun traitement dans 18% des cas. À la fin de la cure, le médecin a jugé la dermatose comme étant légère à modérée dans 80,5% des cas, importante et très importante dans 18,5% des cas. Au total, on a vu au début de la cure 61% des curistes qui avaient une dermatose légère à modérée et ils étaient 81% à la fin de la cure, soit une amélioration significative. Dans l'ensemble, le médecin thermal a jugé que la dermatose était guérie ou améliorée dans 63% des cas, sans changement dans 24% des cas et aggravée dans 13% des cas. La raison de l'aggravation, elle est due dans les trois quarts des cas au rebond de cure. Concernant les données médicales, 6 mois après la fin de cure, il s'agit d'auto-questionnaires qui sont remplis par les patients. Nous avons donc pu analyser 196 dossiers sur les 644 patients qui ont été inclus au début de l'enquête, ce qui donne un taux de retour de l'ordre de 30%. Les patients ont jugé, 6 mois après la fin de cure, que leur dermatose était légère à modérée dans 67% des cas, comme guérie à améliorée dans 64% des cas, sans changement dans 23% des cas et aggravé dans 12% des cas. La cure leur a permis à ces patients de réduire leur consommation de médicaments dans 69% des cas et d'espacer leur poussée dans 80% des cas. Et 76% d'entre eux ont jugé dans l'ensemble que leur qualité de vie était améliorée. Nous allons donc maintenant aborder le troisième objectif de l'enquête qui concernait l'impact sur la qualité de vie des patients. Alors, nous avons choisi comme échelle de qualité de vie le vécu dermato pour les patients adultes et le Children Life Quality Dermatology Index pour les enfants. Les auto-questionnaires donc, ont été remplis par les patients, enfants et adultes, en début, à la fin de cure et 6 mois après la fin de cure. Il faut savoir que plus le score est élevé, plus la qualité de vie est altérée. Alors, chez l'adulte, les résultats montrent qu'entre le début et la fin de cure, il y a une amélioration du score de la qualité, avec une diminution de ce score, justement, mais qu'entre la fin de cure et 6 mois après, il y a un retour aux valeurs initiales. Chez l'enfant, les résultats montrent également une amélioration significative de la qualité de vie entre le début et la fin de cure par la diminution de score, mais nous avons eu un trop faible retour des questionnaires et qui ne nous a pas permis de faire une analyse statistique entre la fin de cure et les 6 mois après. En conclusion, il apparaît au terme de cette enquête que les bénéfices en dermatologie pendant la cure et 6 mois après sont importants. Je vous remercie.
Bonjour, messieurs les présidents, mesdames, messieurs. Je m'appelle Alain Aurèche, je suis médecin au FUMAD, enfin médecin à Alès, et je vais présenter une étude qui a été réalisée à Allègre-les-Fumades, donc une station thermale qui est juste à côté d'Alès. C'est une étude en fait qui a été faite en 2007 et qui avait pour but d'évaluer l'efficacité du traitement thermal chez les patients porteurs d'une pathologie rhumatologique aux membres inférieurs et ou rachidienne. Le promoteur de l'étude était la société qui exploite les fumades de la Sogatherm, l'investigateur coordonnateur, le professeur Bosson de Grenoble, du CIC de Grenoble, qui a bien servi pour exploiter les données statistiques. J'étais le médecin recruteur à l'époque. Les participants de cette étude, pour inclure les patients dans l'étude, il fallait avoir 18 ans, il fallait présenter une indication rhumatologique de cure thermale, être affilié à la sécurité sociale, souffrir d'arthrose ou d'une autre pathologie rhumatologique avec une atteinte au membre inférieur ou une pathologie donc rachidienne. Les personnes étaient effectivement des personnes éprouvant une gêne à la locomotion ou une gêne fonctionnelle rhumatologique. Il fallait que ces patients soient disponibles pour une cure thermale de 18 jours et un suivi de 6 mois. Non inclus étaient les patients femmes enceintes, parturientes, mères qui allaitent, personnes privées de liberté, contre-indication au thermalisme, intolérance prévisible aux soins thermaux, en particulier intolérance à la chaleur et au bain, puisqu'on s'attendait à avoir des patients qui pouvaient très bien n'avoir jamais connu les cures thermales, donc il ne fallait pas que ça puisse biaiser l'étude. Et pour ne pas fausser l'évaluation de la douleur à l'inclusion, les traitements associés ci-dessous ont été interdits, c'est-à-dire les AINS 5 jours avant l'inclusion, les antalgiques depuis moins de 12 heures avant l'inclusion et les infiltrations depuis moins de 1 mois avant l'inclusion. Les modalités d'allocation, lors d'une consultation médicale d'inclusion qui était réalisée par mes soins, ont jugé de l'éligibilité du patient. Les traitements délivrés, au minimum 4 soins obligatoires pour les traitements pendant la cure thermale, les soins correspondant à la nomenclature officielle de la sécurité sociale. Les soins proposés étaient bain avec douche en immersion, douche générale au jet, douche pénétrante, bain de vapeur collectif, cataplasme en application locale unique, cataplasme en application locale multiple et massage sous eau thermale. Objectif et critères de jugement. L'objectif principal, en fait, était de mesurer cliniquement, de mesurer l'effet clinique à 6 mois d'un traitement thermal complet dans une indication rhumatologique. Donc on avait un critère de jugement principal qui était basé sur l'étude d'un indice WOMAC, qui est un indice fonctionnel ciblé sur l'appareil locomoteur, et sur la base également de l'EVA, donc l'échelle visuelle analogique selon Hoskinson, et qui nous permettait de déterminer le plus petit changement cliniquement pertinent pour ces deux critères de jugement. Alors, le patient sera jugé comme cliniquement amélioré si l'indice WOMAC est amélioré d'au moins 9 par rapport à la valeur à l'inclusion, ou si sa douleur à l'EVA à 6 mois est améliorée d'au moins 20 mm par rapport à l'inclusion. Les objectifs secondaires et les critères de jugement secondaires, c'était une évaluation quantitative des EVA et du WOMAC par comparaison des moyennes à l'inclusion et à 6 mois. Une évaluation clinique qui était réalisée par le médecin recruteur à l'inclusion à 3 mois et à 6 mois avec recueil de l'opinion du patient et indication de l'opinion du médecin. La qualité de vie était estimée par un questionnaire SF36, qui est une échelle générique de qualité de vie, remplie par le patient à l'inclusion à 3 et à 6 mois. On faisait une comparaison avant et après cure de la consommation médicamenteuse, et l'EVA a été analysé par le patient, en plus des consultations d'inclusion 3 et 6 mois, par un renvoi d'une EVA qu'il remplissait au domicile à 1 mois et demi et 4 mois et demi. Donc globalement, on avait une évaluation toutes les 6 semaines. Donc là, on reprend le schéma avec l'inclusion, avec l'examen clinique, LCF36, WOMAC, EVA. Je vais revenir sur le nombre de patients pour l'étude qui était de 120 patients. Donc la première consultation d'inclusion avec le médecin recruteur. Donc tout ceci forme un ensemble. Suivi à un mois et demi par une évaluation par le patient qui remplit une EVA. À 3 mois, un examen clinique, SF36, WOMAC et EVA. Consultation réalisée par le médecin recruteur. 4 mois et demi, un EVA réalisé par le patient est renvoyé par la poste. Suivi à 6 mois, examen clinique, SF36, WOMAC, EVA, tout ça réalisé par le médecin recruteur. Les méthodes. Alors, la proportion de patients améliorés à 6 mois de 50% sur les critères WOMAC et EVA, plus ou moins 10% ont été retenus. Le logiciel, le nombre de patients à inclure en test bilatéral devait être égal à 100 patients, et si l'on formulait l'hypothèse d'un nombre de 20% de patients sortis d'études ou perdus de vue ou ayant interrompu l'étude, il nous fallait un nombre minimum de patients à inclure dans l'essai qui était égal à 120 patients. 120 patients, ça a été la première inclusion 6607, dernière inclusion 15907. Les inclusions, globalement, tout de suite, on a eu beaucoup de gens qui étaient intéressés par cette étude. Et globalement, en septembre, on a dû arrêter parce que c'était plus possible. On aurait été un petit peu submergé par les patients. L'analyse statistique a été réalisée avec les procédures habituelles de management des données. Tout ça, ça a été assuré par le CIC de Grenoble et grâce à la collaboration, grâce au travail du professeur Bosson. L'analyse descriptive, elle porte sur l'ensemble des variables recueillies. On utilise les nombres et fréquences pour les variables qualitatives et on utilise les moyennes et les écarts-types pour les variables continues. Un tableau montrant les caractéristiques des patients à l'inclusion est présenté avec l'ensemble des variables démographiques ou cliniques pertinentes. Le critère principal, il est mesuré avec un intervalle de confiance à 95% du pourcentage de succès selon l'étape de la loi binomiale. Comparaison du critère principal par sous-groupe, il y a un qui deux. Les critères secondaires, pour les critères secondaires quantitatifs, EVA, score de WOMAC, SF36, il y a un test de student. Pour les séries à parier, comparaison à l'inclusion et à 6 mois, une analyse de la variance est réalisée pour mesures répétées. Pour les critères qualitatifs, c'est un test du qui deux de McNamara. Le flux des participants, donc 125 patients inclus pour au total en retenir 120, minimum qui nous servait à bâtir notre étude. Il y a eu 5 arrêts d'étude, 3 retraits de consentement, des gens qui ne souhaitaient plus participer à l'étude pour des raisons qui les regardaient, et 2 autres causes, c'était une chute à domicile, une patiente qui s'était fracturée le poignet, qui ne pouvait plus suivre correctement les soins thermaux, et une dame qui a eu un décès dans sa famille, qui n'a pas pu assurer la suite des consultations. Les patients à l'inclusion, 21% sexe masculin, l'âge moyen 63 ans, l'IMC 27, une tension qui était, c'était plutôt des bons patients au niveau tension, parce qu'on se méfiait en fait de la réaction par rapport aux os et qui aurait pu éventuellement faire sortir les patients de l'étude s'il y avait dû les traiter ou s'il avait fallu intervenir. Donc globalement, on a recruté quand même des patients avec une tension systolique à 12,7, une tension moyenne 74, une fréquence moyenne à 72. Pour les antécédents thérapeutiques, c'était des patients qui avaient pris des médicaments pour leur arthrose, qui avaient reçu des massages de la kinésithérapie, qui envisageaient de faire une cure prochainement pour 64% d'entre eux, qui avaient déjà fait une cure thermale pour 51%, dans l'orientation rhumatologique ou dans d'autres orientations, voies respiratoires et dermato en particulier. Ces patients, pour certains, avaient reçu une infiltration, avaient déjà reçu une infiltration d'acide hyaluronique. On s'intéressait surtout, effectivement, j'ai oublié de le préciser, à deux pathologies essentielles, c'est-à-dire l'arthrose du rachis lombaire et la gonarthrose, qui était globalement le plus grand pourvoyeur de patients sur le site des fumades. Les opérations chirurgicales, oui, de quel type? Arthroscopie, ostéotomie, prothèse de genou, discopathie opérée, tout ça concernait une petite partie des patients. Description de pathologie à l'inclusion, lombalgie chronique, coxarthrose, donc surtout lombalgie chronique, gonarthrose, rhumatisme psoriasique, polyarthrite, fibromyalgie, sachant qu'à un moment donné, il fallait aussi décider dans quelle zone on allait placer les patients, sachant que un patient fibromyalgique avait le droit d'avoir une douleur chronique au dos, avoir une coxarthrose, etc. Donc il y avait des patients qui pouvaient s'intercaler. Les facteurs pronostiques, il y avait beaucoup d'antécédents d'arthrose au premier et au deuxième degré. Les signes de la diffusion de la maladie arthrosique étaient importants pour 35% des patients au niveau du rachis dorsal, pour 94% au niveau du rachis lombaire, et autres, ça concernait essentiellement les genoux. Le score de WOMAC, le VA et le SF36 nous ont donc permis définir en fait la façon d'appréhender ces patients et de les surveiller par rapport à leur activité physique, leurs limitations, leur activité, leur santé perçue, leur vitalité, leur vie et leur relation avec les autres. Il y avait la dimension psychique qui était aussi partie prenante. Et on a essayé d'évaluer au départ en fait les médicaments qu'ils prenaient, à savoir l'aspirine, l'ANS, cortisone, le paracétamol, le but étant effectivement d'estimer après l'étude ce qui restait comme consommation. Critère principal, le plus petit changement cliniquement pertinent, on avait une amélioration du score de WOMAC d'au moins 9 par rapport à l'inclusion à 6 mois et ou une amélioration de l'EVA, douleur au moins 20, de moins 20 mm par rapport à l'inclusion à 6 mois. À 6 mois, 95 patients sur 120, donc 79,2%, une amélioration cliniquement pertinente par rapport à l'inclusion, indice de confiance à 95%. Nous avons calculé pour les 120 patients analysés le délai entre les jours, entre la date d'inclusion et la date de visite, donc une médiane à 180, minimum 150 jours, maximum 206 jours. À 3 mois, 77% étaient améliorés, avaient atteint le PCCP. À 6 mois, 95%, donc 79% des patients étaient toujours concernés. La comparaison maintenant sur les critères secondaires de l'indice WOMAC à l'inclusion, on a réalisé donc les tests dont on a parlé tout à l'heure, avec un test de Studen pour série à parier, qui mettait une différence significative entre le test de WOMAC à l'inclusion et à 6 mois. La différence significative aussi entre le VA à l'inclusion et à 6 mois. La comparaison du score SF36 à l'inclusion et à 6 mois, toujours d'après le test de Studen, une différence significative dans la dimension physique du SF36 à l'inclusion et à 6 mois, et dans la dimension psychique du SF36 à l'inclusion et à 6 mois. Pour obtenir ces scores agrégés, nous avons calculé les 8 dimensions du SF36, dont voici la comparaison à l'inclusion et à 6 mois pour les 120 patients étudiés, sachant qu'on se basait sur l'activité physique, la limitation due à l'état physique, les douleurs physiques, la santé perçue, la vitalité, vie et relations avec les autres, la limitation due à l'état psychique et la santé physique. Le VA douleur, simple, situez le niveau de votre douleur habituelle au cours des 7 derniers jours sur la ligne horizontale de l'échelle. Il fallait un test simple aussi pour qu'on puisse réaliser ça à 1 mois et demi et à 4 mois et demi, et derrière permettre au patient de renvoyer son évaluation. Le patient évaluait sa douleur sur une échelle EVA toutes les 6 semaines. Les résultats obtenus, on peut passer à la courbe juste derrière. Voilà, on a un EVA qui baisse avec un EVA qui est significativement différent entre l'inclusion, 1 mois et demi, 3, 4 mois et demi et 6 mois. Là, l'EVA douleur, on peut passer par la suite. L'opinion patient-médecin sur l'évolution de l'état de santé. rarement aggravée, ni aggravée ni améliorée dans certains cas, souvent effectivement améliorée. Et on se retrouve avec une bonne perception de l'épisode thermal pour les gens qui étaient naïfs de toute cure. Et pour les autres, globalement, ils étaient assez satisfaits aussi. L'évaluation clinique a permis de contrôler les patients et éventuellement de les faire sortir de l'étude s'il y avait un souci. On a vérifié la consommation médicamenteuse qui, globalement, a diminué pour toutes les classes de médicaments utilisés, sauf pour les antiarthrosiques d'action lente, où on avait une stabilité. Globalement, les patients prennent moins de paracétamol, moins d'antalgiques, moins d'AINS, et les traitements injectables sont moins retrouvés. Donc, au niveau de l'analyse accessoire, pas de différence au niveau des hommes et des femmes. L'évaluation au critère principal selon l'antécédent de cure thermale, le pourcentage de patients améliorés est significativement supérieur pour les patients n'ayant jamais fait de cure thermale. Le critère principal donc reste positif pour un pourcentage important de patients améliorés. Et on va rester sur les effets indésirables qui ne nous ont pas permis de faire de déclaration d'événements indésirables auprès de la DGS. Et derrière, pour conclure, on peut retrouver donc sur cette étude une amélioration cliniquement pertinente par rapport à l'inclusion pour 95%, pour 95 patients sur 120, donc 79,2 patients, une diminution de l'EVA qui passe de 59,9 à 36,3 mm à 6 mois, un nombre de patients qui considèrent que l'état de santé s'est amélioré à 3 et à 6 mois par rapport à l'inclusion, et la consommation médicamenteuse, antalgique, AINS et injections intra-articulaires, qui diminue constamment sur 6 mois et reste stable pour les antiarthrosiques d'action lente. Je vous remercie.
Chers collègues, avant de commencer ma présentation, je voudrais remercier beaucoup tous les organisateurs de ce symposium, mais en particulier le professeur Rock. Le but de mon exposé est de tenter d'établir les niveaux de preuves actuels d'efficacité de la thérapie thermale fournie par les essais cliniques dans la fibromyalgie primaire. La suivante. La fibromyalgie est une affection caractérisée par des douleurs musculo-squelettiques diffuses, persistantes, mal expliquées et associées à une douleur intense à la pression, localisée en des points bien définis du corps et appelée tender point. La suivante. Elle s'accompagne d'un cortège d'autres symptômes comme asthénie, céphalée, anxiété ou dépression. Avant encore, mais surtout, il y a un gros problème dans cette pathologie, c'est-à-dire l'insuffisance de la thérapie pharmacologique. Une thérapie qui est souvent insuffisant et il apparaît de plus en plus clair que la meilleure approche thérapeutique est de type global, multidisciplinaire, où l'on associe des thérapies pharmacologiques et des traitements non pharmacologiques. La suivante. Parmi les approches non pharmacologiques, les traitements thermaux peuvent représenter une aide efficace dans la gestion de cette pathologie, surtout en ce qui concerne leurs effets analgésiques et myorelaxants. Avant encore, mais malgré de telles prémices, les essais cliniques randomisés, contrôlés sur les traitements thermaux de la fibromyalgie primaire ne sont pas nombreux. Et surtout, ils sont caractérisés par une importante hétérogénéité. Hétérogénéité tant en ce qui concerne la taille de l'échantillon, tant en ce qui concerne les traitements thermaux considérés ou encore les thérapies de comparaison, encore le paramètre d'outcome, la période du follow-up. En général, les résultats de l'ensemble de tous ces essais montrent que la balnéothérapie, surtout la balnéothérapie, souvent associée à d'autres traitements, est associé à d'autres traits qu'une vie à une réduction importante de la douleur, de la capacité fonctionnelle et à une amélioration de la qualité de vie, aussi bien à la fin du traitement que lors du contrôle à distance. En revanche, dans aucun de ces travaux, on a pris en considération la possibilité de l'effet thérapeutique de la buterémale. Avant. Dans ce but, nous avons réalisé une étude multicentrique, randomisée, contrôlée, en simple aveugle, qui avait pour objectif d'évaluer l'efficacité et même la tolérance des applications généralisées de buterémale associées à des bains thermales et avec des chaux minérales différentes. Avant. À l'étude ont participé 4 centres de rhumatologie de l'Italie, Napoli, Cagliari, Padova, Siena, et tous ces centres faisaient référence à une station thermale proche. Avant encore, 80 patients, 20 pour chaque centre, avec une fibromyalgie primaire selon les critères de l'ECR, sont inclus dans l'étude. Tous les patients étaient en thérapie pharmacologique stabilisée depuis au moins 3 mois avec une réponse clinique insuffisante. Et attention, ça c'est un point important de notre étude, tous les patients devaient habiter en proximité des centres de thermaux de référence et continuer leurs propres activités quotidiennes. Le traitement. Les patients ont été randomisés en des groupes de 40 patients chacun. Les groupes thérapie thermale BBT traités avec 12 applications de boue généralisées, température 40-45 degrés, duraient 15 minutes, suivi de boue thermaux, température 37 degrés et d'une durée de 10 minutes. Et les groupes témoins. Les groupes témoins qui continuait seulement le traitement pharmacologique. Pendant toute la période de l'étude, aucun autre traitement pharmacologique ou non pharmacologique n'était autorisé, à part le paracétamol. Avant encore, tous les patients ont été évalués au basal après 15 jours, c'est-à-dire à la fin du traitement. En Italie, le traitement peut avoir une durée de seules 2 semaines. Après 15 jours, à 16 semaines, par un médecin indépendant extérieur à la station thermale et qui n'avait pas connaissance des traitements reçus par les patients. Avant encore, les paramètres, la réponse au traitement, étaient évalués par le fibromyalgie impact questionnaire, le FIQ, le nombre de turner points détectés par pression digitale, l'échelle visuelle analogue pour les symptômes mineurs, l'Health Assessment Questionnaire et enfin par un index de qualité de vie, c'est-à-dire LIMS-1. Avant encore, sur cette diapo, on peut voir les caractéristiques cliniques et démographiques des patients étudiés. Comme on peut le voir, il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes au début de l'étude. Avant encore, les résultats. Les diagrammes montrent les valeurs du score pour l'FIQ pendant l'étude. Dans les groupes soumis au traitement thermal, il y avait une réduction hautement significative lors du contrôle à 15 jours et qui persistait lors du contrôle à 16 semaines. Mais dans les groupes témoins, il n'y avait aucune modification. La différence entre les deux groupes, lors du contrôle à court terme, lors du contrôle à 4 mois, était hautement significative. Avant, la décompte des tender points montrait une valeur semblable pour les deux groupes au début de l'essai, une réduction hautement significative encore à 15 jours, mais surtout à 16 semaines, à 4 mois, seulement dans les groupes soumis au traitement hormonal. Et encore, les mêmes considérations on peut faire pour ce qui concerne les résultats de l'HEQ et du AIMS-1. Encore, qu'est-ce qu'on peut dire sur la tolérance? En ce qui concerne la tolérance, les patients ont terminé la thérapie thermale et surtout l'application des labos a été bien tolérée et aucun patient n'a présenté une exacerbation du symptôme algique. Et ça, c'est important pour une pathologie comme la fibromyalgie. Avant encore, quelles sont les conclusions de notre étude? En conclusion, notre étude a démontré que le traitement de balnéopharyngothérapie a provoqué une amélioration significative de tous les paramètres considérés d'efficacité, tant lors du contrôle à court terme, mais surtout à la distance. Aucune différence significative n'apparaît entre les deux eaux minérales utilisées, mais peut-être du fait de la petite taille de l'échantillon considéré. Et encore, l'application des boues généralisées est bien tolérée et elle n'a pas déterminé de nouvelles aggravations de la maladie. Donc, à notre avis, la fango-balnéothérapie, surtout la boue thermale, peut représenter une aide significative dans les programmes thérapeutiques de la fibromyalgie primaire. Avant encore, des paroles pour ce qui concerne les possibles mécanismes d'action de la thérapie thermale dans la fibromyalgie. Nous devons considérer l'effet analgésique myorelaxant, mais encore la sécrétion des ACTH, des corticostéroïdes et de la bêta-endorphine déterminée par le stress de la chaleur, de la boue, etc. Et encore, l'influence sur les systèmes oxydants-antioxydants et naturellement l'influence de l'environnement thermal. Et je vais à mes conclusions générales. Nous arrivons maintenant à nos conclusions générales. Les données disponibles sur le traitement thermal de la fibromyalgie semblent, mais je dis bien semble, témoigner d'une bonne efficacité clinique à court et moyen terme. Toutefois, de nouveaux essais cliniques randomisés sur des échantillons plus nombreux et sur le long terme sont nécessaires pour confirmer ces données. Encore, il faudra mieux identifier les effets distinctifs entre les propriétés chimiques spécifique de l'eau thermale et à la chaleur. Et enfin, je crois que c'est beaucoup, beaucoup important d'évaluer finalement les rapports coût-bénéfice, coût-utilité. Ça, c'est la réponse qu'on doit fournir à notre gouvernement, à le gouvernement italien, le gouvernement français. Et donc, avant encore, je vous remercie beaucoup pour votre passion. Je encore merci beaucoup pour votre attention. Grazie per l'attenzione. Arrivederci.
Bonjour à tous. Eh bien, je remercie les organisateurs de ce congrès de me permettre de présenter ce travail collectif des trois stations thermales françaises spécialisées en rhumatologie, les trois plus grandes. Et donc on a appelé cette étude thermarthrose parce que on espère que ça va être une validation du thermalisme par les autorités scientifiques. Elle a déjà été publiée, acceptée pour publication dans une revue qui s'appelle Annal of Rheumatic Disease, qui est une revue importante de rhumatologie au niveau international. Et donc vous avez là tous les auteurs. avec donc les Alain Françon et moi-même qui sommes d'Aix-les-Bains, mais également Hugues Desfours de Balaruc et Jean-Max Tessier de Dax. Et donc c'est bien une collaboration des trois stations qui a permis, grâce au soutien financier de la FRET et au soutien logistique du centre d'investigation clinique de Grenoble, de réussir cet essai. Et pourquoi est-ce qu'on a fait une étude sur l'arthrose du genou? La première raison, c'est que la gonarthrose est fréquemment traitée en cure thermale. Elle représente à peu près 40% de nos patients. C'est une pathologie fréquente dans la population française. Je ne me souviens plus des chiffres exacts, et puis on a peu de données en France, mais c'est vraiment quelque chose de très très fréquent. Et il y avait déjà, lorsqu'on a commencé, des essais cliniques, mais ils avaient été jugés insuffisants pour deux raisons. Les effectifs de ces études étaient trop réduits et ils avaient une rigueur méthodologique qui était jugée insuffisante par les reviewers. La conséquence de ça, c'est que dans les dernières recommandations de pratique clinique de l'OLA en 2003 et plus récemment de l'ORC en 2008, la cure thermale n'était pas spécifiquement recommandée. Je vous ai montré simplement, dans les dernières recommandations de l'ORC, on est cité de façon un petit peu indirecte dans la première recommandation en disant qu'il faut combiner les traitements pharmacologiques et non pharmacologiques. Dans la recommandation 5, vous voyez, donc les exercices aérobies, y compris dans l'eau chaude, qui peuvent être efficaces, et puis sur l'application de chaleur. Mais la cure thermale n'est pas citée en tant que telle. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de la méthodologie, mais simplement pour vous expliquer un peu comment on a raisonné pour concevoir l'essai. Tout d'abord, on a cherché à améliorer la validité interne de l'étude. C'est-à-dire, la question c'était de savoir est-ce que les résultats qu'on va observer dans l'étude sont dus à un biais ou à la différence d'effet entre les deux traitements qu'on va comparer. Donc, pour ce qui est de l'insu, on a essayé de réaliser un insu de la randomisation, un insu partiel des patients en faisant ce qu'on appelle la randomisation du consentement de Zelen, c'est-à-dire qu'il y avait un groupe qui ne savait pas que l'autre groupe recevait le traitement thermal, et un insu des thérapeutes. On ne pouvait pas, dans notre organisation, faire un insu de l'évaluation. Et bien entendu, on n'avait pas un insu total des patients. Les gens savaient très bien le traitement qu'ils recevaient. L'autre aspect, c'était sur le critère de jugement. Il y a des études, des méta-analyses qui montrent que lorsqu'on examine une donnée qui est subjective comme la douleur, il est important de prendre un critère de jugement qualitatif car la part de l'effet placebo est beaucoup plus faible. Et donc on a choisi un critère de jugement qualitatif validé par des conférences de consensus des experts sur l'arthrose. C'est l'amélioration cliniquement pertinente dont on vous a déjà parlé tout à l'heure dans l'étude sur les fumades. Et on a également insisté beaucoup sur la neutralité de l'évaluation vis-à-vis du thermalisme, puisqu'on ne pouvait pas avoir d'insu des patients. Il était important que les personnes qui faisaient l'évaluation soient neutres vis-à-vis du thermalisme, qu'ils ne soient pas tentés de biaiser le résultat par un a priori favorable. Et enfin, bien entendu, ça c'est indispensable dans les essais aujourd'hui, faire une analyse en intention de traiter. Pour ce qui est de la validité statistique, c'est-à-dire en fait est-ce que le résultat est imputable à un hasard statistique ou à une réelle différence statistique entre les deux groupes, on a fait un calcul préalable du nombre de patients à inclure, qui était fondé sur une étude ouverte qu'on avait fait pendant l'été 2005, si je me souviens bien, à Aix-les-Bains avec Alain. Le critère principal, il n'y avait qu'un seul critère principal qui était unique, qui était à 6 mois. Le protocole d'analyse statistique a été enregistré sur le registre international des essais cliniques, donc clinicaltrial.gov. Quand vous faites un protocole, si vous voulez qu'il soit admis par les grandes revues, il faut déposer le protocole avant l'inclusion sur ce site. Et de cette façon, vous pouvez prouver que vous n'avez pas manipulé les données statistiques après coup pour trouver un résultat statistiquement différent. Et il y avait une indépendance de l'évaluation statistique. C'était le centre d'investigation clinique de Grenoble qui n'est pas spécialement, en tout cas à l'époque, qui n'était pas spécialement impliqué dans le thermalisme. C'est peut-être plus tout à fait vrai aujourd'hui puisqu'ils font des études par eux-mêmes. La validité externe, c'est très important. Est-ce que les conclusions de l'étude sont valables pour l'ensemble du thermalisme français? C'est la raison pour laquelle, grâce à la FRET, on a pu faire une étude multicentrique. Grâce à la FRET également, on a pu inclure un grand nombre de patients. Et une autre caractéristique importante, c'est que parmi les patients qu'on a examinés, on souhaitait avoir des critères d'inclusion qui permettent d'inclure une grande proportion de patients. Souvent dans les études de pharmacologie, on inclut 0,5% ou peut-être 1% des patients examinés. Nous, on essaie de faire en sorte que ce soit une forte proportion de patients. Et donc, les trois stations représentent pratiquement 30% des curistes rhumatologiques en France. Et en plus, elles ont des eaux un petit peu différentes qui reflètent à peu près le bassin de l'eau thermale français qui soigne le rhumatisme. Donc, le critère de jugement principal, on vous en a déjà parlé tout à l'heure, dans une autre présentation, ce qu'on recherchait, c'était le pourcentage de patients avec une amélioration cliniquement pertinente. C'est une notion récente qui est très importante dans les essais cliniques aujourd'hui. Et il faut que non seulement il y ait une amélioration significative du critère, mais il faut que cette amélioration soit perceptible par le patient. Et donc, concrètement, ça correspond à une amélioration de 19 mm sur le VA de la douleur ou de 9,1 points sur l'indice WOMAC fonction, qui est normalisé sur un score fonctionnel de 100. Les critères secondaires, c'était le pourcentage de patients avec un symptôme cliniquement acceptable, qui était donc il fallait que la douleur soit de moins de 32 mm ou que l'indice WOMAC ait moins de 31 points. On demandait également l'opinion du patient, l'opinion du médecin, et on a regardé la cinétique de l'évolution de la douleur et de l'indice WOMAC à 3, 6 et 9 mois, la qualité de vie par un indice de qualité de vie générique qui est le SF36, qui est utilisé beaucoup en rhumatologie, et on a également mesuré la consommation d'antalgiques, d'anti-inflammatoires, et enfin tous les critères que vous voyez là-dessus. Alors les résultats, simplement brièvement la courbe d'inclusion, pour féliciter la station de Dax qui a commencé l'étude presque 6 mois après nous et qui a fini d'inclure à peu près à la même période qu'Aix-les-Bains. Donc on voit que les stations thermales peuvent être très très dynamiques quand elles veulent s'y mettre. Et c'est donc le bon recrutement qui a été un des gages de succès de cette étude. Je vous montre très brièvement le diagramme de flux pour montrer qu'au total, on a examiné 630 patients et que 462 ont été inclus. Vous avez dans la boîte grisée, un petit peu plus bas, finalement, on a pu faire l'analyse statistique sur 187 patients dans le groupe contrôle et 195 dans le groupe thermal. On en avait un petit peu moins à 9 mois, mais ce n'était pas à cette époque-là qu'on mesurait le critère principal. Et les caractéristiques, donc on vous a dit qu'on avait fait une randomisation, les caractéristiques des patients étaient comparables au départ pour ce qui est du sexe ratio, de l'âge, de la prise de médicaments et de traitements antérieurs. Les facteurs pronostiques étaient également comparables entre les deux groupes. L'examen clinique également, la sévérité radiologique était proche. Il y avait une différence dans le groupe au départ, c'est que le groupe thermal avait un indice WOMAC un petit peu plus sévère. C'est-à-dire que le groupe qui s'est retrouvé traité par le traitement thermal, par un hasard statistique, puisque donc on avait fait une randomisation, s'est trouvé un tout petit peu dans un état plus grave. Alors, le nombre de patients améliorés, je vous montre donc le critère principal avec à 6 mois, 50% de patients améliorés dans le groupe thermal, alors qu'il y avait 36% de patients améliorés dans le groupe témoin. Je précise que dans le groupe témoin, on a proposé des exercices à domicile et que le groupe thermal faisait les exercices à domicile plus le traitement thermal de 3 semaines que vous connaissez. Je vous ai pas, je suis pas entré dans le détail des traitements thermaux parce que vous les connaissez. On fait des massages, de la piscine, de la boue, des baignoires, des douches, etc. Donc on a fait les traitements qu'on fait habituellement à nos patients atteints de gonarthrose. Ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, à 3 mois, on a également une différence significative en faveur du traitement thermal, mais qu'on retrouve également cette différence à 9 mois. Alors il y a d'autres aspects qui sont intéressants. Grâce à la cinétique d'évolution de la douleur, on peut calculer l'effet thérapeutique. Donc on calcule l'écart type de la variation. La variation qu'on divise par l'écart type de la variation, ça nous donne l'effet thérapeutique qui est de 0,21 chez les témoins, donc les gens qui font exercice physique seul, et qui est de 0,35 chez les curistes pour la douleur, de 0,55. Et pour ce qui est de l'indice WOMAC, qui est apparemment un petit peu moins sensible au changement, on a 0,17 dans le groupe témoins et 0,43. Donc pour se placer par rapport aux autres traitements, pour vous donner un ordre de grandeur, les traitements antalgiques, l'effet thérapeutique du traitement antalgique paracétamol, c'est de l'ordre de 0,20. L'effet antalgique des anti-inflammatoires, ça dépend un petit peu comment est-ce qu'on, quelles études on retient, mais c'est entre 0,30 et 0,40. Et donc finalement, dans une étude qui est quand même relativement rigoureuse sur le plan méthodologique, on a essayé au maximum d'éviter les biais, eh bien on se retrouve avec un effet thérapeutique qui est tout à fait comparable à celui des autres traitements, et M. Rock me souffle qu'il faut que je dise supérieur. Donc je dis supérieur. Mais sur une, c'est pas une méta-analyse, c'est une étude, donc il faut rester modeste. Voilà donc la courbe d'évolution de la douleur des deux populations, les témoins qui sont en orange et la cure thermale. On a à peu près la même courbe avec l'indice WOMAC fonction. Je voulais simplement vous montrer ce graphique qui représente la qualité de vie. Alors la comparaison entre les deux groupes n'est pas significative. Mais ce qu'on observe tout de même, vous voyez que la courbe qui est à l'intérieur, la courbe qui est en bleu clair, c'est le avant la cure. Et on voit qu'après la cure, on a une augmentation du périmètre. Donc là, une bonne qualité de vie, ce serait une qualité de vie parfaite, ce serait un périmètre total. Eh bien, on voit que la qualité de vie dans le groupe témoin s'est améliorée. Et si on regarde également dans le groupe cure thermale, on voit que le cercle intérieur, c'est en début de traitement. Le cercle extérieur, c'est à 6 mois. Et donc, les deux traitements, que ce soit l'exercice physique seul ou l'exercice physique plus la cure thermale, il est vraisemblable qu'ils améliorent la qualité de vie, même si c'est pas, y a pas une grosse différence entre les deux. Les deux démarches améliorent la qualité de vie. Donc on a bientôt terminé. Simplement pour dire que pour les autres critères de jugement, c'est-à-dire patient dans un état cliniquement acceptable, la qualité de vie, la consommation de soins en général, la différence n'était pas significative entre les groupes. Il y avait une baisse relative de consommation qui était un petit peu plus importante dans le groupe thermal, mais qui n'atteignait pas le seuil de signification statistique. Il y a eu quelques événements indésirables, 4 majorations des douleurs du genou, mais je vous rappelle que c'était des groupes de 200 patients. 2 lombalgies, 1 majoration de l'insuffisance veineuse. On sait qu'en appliquant de la chaleur sur les jambes, ça peut arriver, que c'est des patients qui ont souvent de l'insuffisance veineuse. 1 hématurie qui n'a pas de rapport direct avec la cure. 1 infection des voies aériennes supérieures. Alors là, c'est quand même une chose qui peut arriver en cure thermale. 1 personne est enrhumée. Évidemment, comme on est dans un groupe, qu'on est en ambiance humide, il est vraisemblable que la cure thermale favorise les infections des voies aériennes supérieures. Il y a également un érysipèle. Il est vraisemblable qu'on favorise également les érysipèles par le biais de l'immersion en eau. Donc il faudra peut-être qu'avec les phlébologues, on détermine des procédures pour éviter les érysipèles chez les gens qui en ont déjà eu ou chez les gens qui ont une insuffisance veineuse sévère. Voilà, mais écoutez, je crois que c'est terminé.
Bien, vu l'heure qui avance, on va accepter quelques questions.
Voilà, compte tenu du temps qui nous était imparti, je n'ai pas parlé de ces détails. On avait fait 3 classes dans les périmètres de marche, donc ceux qui marchent entre 100 et 150 mètres, ceux qui marchent entre 150 et 350 et au-delà de 350. Donc la publication était très homogène puisque seulement 2 patients sur 62 marchaient, disons, entre 350 et 500 mètres. Et l'amélioration varie donc entre 58 et 68% pour l'augmentation de ce périmètre de marche et qui perdure à 1 an. Et si l'on compare à ce que donne le Vidal pour l'augmentation donc, du périmètre de marche pour les vasoactifs, eh bien nous, on a 70% des patients dans le groupe traité qui augmentent de plus de 50% leur périmètre de marche et l'effet placebo est seulement, donc dans le groupe placebo, seulement 13% des patients artériopathes non traités augmentent leur périmètre de marche de plus de 50%. Et c'est tout à fait ce que trouve notre collègue allemand avec une étude randomisée en simple insu, lui, qui a été publiée donc antérieurement. Alors la qualité de vie, c'est pareil. Donc on a utilisé le questionnaire de qualité de vie CLOS qui est utilisé au niveau international lors de l'étude des vasoactifs. Et un seul item a montré une modification significative, c'est celui de mieux se mouvoir, voire sans assistance, avec une probabilité de 6%, de 6 pour 1000, donc qui est très significatif, et donc qui montre bien qu'il y a un service médical rendu, 66% d'augmentation du périmètre de marche, mieux se mouvoir significativement donc, dans la rue, et l'échelle visuelle analogique qui montre une diminution, donc on est tout à fait dans les normes de Forestier, une chute de 20 mm avec, dans le groupe traité et une différence intergroupe à 3%. Donc voilà ce qu'on pouvait dire, que là, malgré, donc c'est la pharmacologie, on se place tout à fait dans un essai clinique pharmacologique, puisqu'il concerne la molécule qui est le dioxyde de carbone, et on a vraiment un effet, qui est global sur cet effet clinique.
Merci.
Juste pour répondre un tout petit peu à ça, un des points qu'on a noté, c'est qu'en fait, curiste comme non curiste, l'arthrose ne coûte pas très très cher, puisqu'on est entre 300 et 500 euros par mois sur 6 mois. Et donc le gain potentiel, il y a un gain très net, hein. Il y a un gain qu'on voit et qu'on voit même après correction. Le problème, c'est que le gain potentiel n'est pas très important sur le plan financier. Et effectivement, c'est ce qu'on retrouve un peu, je crois, dans Thermarthrose, c'est-à-dire que les consommations de soins n'ont pas beaucoup changé, il me semble. Hein,
parce que les gens sont plutôt de faibles consommateurs de soins.
Exactement. Donc la marge de manœuvre n'est pas très très importante. Et pour pouvoir rendre ça plus significatif, il faut travailler sur des populations plus grandes ou sur des temps plus longs. Mais que bien évidemment, le gain n'est potentiellement... S'ils dépensaient beaucoup plus, ça serait plus facile de voir une diminution importante du gain. Alors, malheureusement, ils ne dépensent pas assez, nos curistes. Hein. C'est un peu ce qu'on a trouvé aussi. Voilà. Mais on gagne 10% on baisse de 10%.
Donc ne pensez-vous pas qu'il serait bien qu'on fasse un recueil de données au niveau européen, en particulier dans ce type de traitement?
Mais ça, c'est mon message.
Ah, ben voilà.
Ça, c'est mon message, et le message que j'ai déjà donné aux Français hier soir. Alors,
on a une réunion le 12 décembre à Bruxelles.
Merci, voilà. Merci beaucoup.
On parlera. D'accord.
Il y avait des petites variations d'une station à l'autre, mais en gros, les soins étaient assez similaires, c'est ce que j'ai dit. Donc, les gens avaient de la boue, de la piscine, des massages, ce qu'on donne généralement dans les stations. Alors, on a fait un petit consensus par station sur le meilleur traitement à délivrer dans chaque station en fonction des disponibilités en soins. Mais disons qu'en gros, ça est évidemment que les soins étaient conformes au cahier des charges de la Sécu, c'est-à-dire en pratique des séances de boue de 15 minutes, des séances de bain qui généralement étaient de 25 minutes, dont 15 minutes de mobilisation supervisée, etc. Enfin, ce qu'on fait habituellement pour nos gonarthroses. On voulait un traitement qui soit représentatif du traitement habituel des curistes. On ne voulait pas faire un traitement révolutionnaire spécial pour l'étude, mais vraiment dire ce qu'on fait.
Je vous demande de rester 5 minutes dans la salle pour permettre à Romain Forestier, qui prend aujourd'hui même
ses fonctions de président de la Société française d'hydrologie et de climatologie médicale, dont je vous rappelle qu'elle est la plus ancienne des sociétés médicales spécialisées, de prendre ses fonctions de président et très brièvement de nous dire comment il voit sa présidence.
Je voulais simplement aborder trois sujets dans mon discours que je vais donc essayer de vous synthétiser. Le premier, ça concerne l'enseignement du thermalisme. Donc, on essaye de modifier l'enseignement du thermalisme de façon à ce qu'il soit plus acceptable par les étudiants et qu'il soit donc plus fréquenté, puisqu'on a quand même une baisse de la fréquentation de l'enseignement du thermalisme. Ça n'a pas beaucoup avancé sous la dernière présidence. Et donc, moi, je ne suis pas universitaire. Je souhaiterais que les enseignants du thermalisme présents dans cette salle ou non présents puissent unir leurs efforts pour essayer de réformer cet enseignement. Je n'en parlerai pas plus. L'autre aspect, c'est ce que je souhaiterais que la société d'hydrologie fasse sous ma présidence. Le premier point, c'est travailler sur l'éducation thérapeutique. Donc, vous voyez que c'est très à la mode, l'éducation thérapeutique. Ce qu'il faut, ce qui est très important pour que les stations soient reconnues et agréées comme centres d'éducation thérapeutique, c'est qu'elles fassent appel à des démarches d'éducation qui sont validées scientifiquement. Donc, c'est bien de faire l'éducation, mais il faut s'assurer que la démarche qu'on développe est une démarche efficace, et donc nous allons essayer d'unir et de faire en sorte surtout que les stations partagent les informations. Moi j'ai imaginé un système où donnant-donnant, où chaque station qui a un petit peu d'expérience dans l'éducation partage avec les autres qui souhaitent acquérir de l'expérience ou qui en ont. Je ne suis pas sûr que les directeurs de station seront d'accord avec nous, mais nous en tant que médecins on n'a pas de petits secrets, et donc j'aimerais qu'on partage nos compétences. Alors je prends ça un peu sur le ton de la plaisanterie, mais c'est très important l'éducation thérapeutique, parce que si on refait chacun de notre côté dans 10 stations différentes les mêmes erreurs, on va prendre un retard et on va rater le coche de l'éducation thérapeutique. Et donc, pendant ce temps-là, il y a d'autres structures qui vont la prendre en charge, et après, ce sera terminé et la place sera prise. Donc, c'est important de faire assez vite, et j'espère que la société d'hydrologie saura aider les directeurs de station à développer ces programmes, puisque dans le cadre de l'éducation thérapeutique, il y a une collaboration naturelle entre les médecins thermaux, les soignants des établissements et les directeurs d'établissements. L'autre aspect dont je voulais parler, c'était les recommandations de bonnes pratiques cliniques. Je pense qu'il est temps de faire des recommandations de bonnes pratiques cliniques sur le thermalisme. Ça nous crédibilisera auprès des institutions, que ce soit les sociétés savantes ou autres. Et je crois que c'est très important de formaliser nos pratiques. Même s'il n'y a pas d'essais randomisés, parce qu'on voit bien que dans certaines spécialités on manque d'essais randomisés, comme par exemple en ORL, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas d'essais randomisés qu'il n'y a pas de connaissances. Et ces connaissances, comme elles ne sont pas formalisées, chacun fait un peu sa petite cuisine de son côté. Et je pense que la société d'hydrologie, en s'inspirant de la méthodologie préconisée par la Haute Autorité de Santé, pourrait faire des recommandations de bonnes pratiques cliniques tout à fait crédible, à condition de faire appel à des médecins extérieurs. Il ne faut pas que ça se fasse qu'entre thermaux. Il faut qu'on fasse travailler d'autres personnes extérieures au thermalisme. Et de cette façon-là, on formalisera notre pratique. Et ça nous permettra également de voir dans quel domaine il y a la nécessité de réaliser des études. Donc ça pourra compléter le travail de la FRET. Voilà, je vous remercie.